Je suis ravie de vous présenter M. Alexei Greenbaum, qui va nous parler des nanosciences et nanotechnologies. Vous voyez la séparation aussi, dont on a parlé hier, et les questions d'éthique. On a abordé les questions d'éthique, mais on ne les a pas approfondies. Donc, je vais vous présenter M. Greenbaum. Vous êtes chercheur au laboratoire LARSIM du CEA Saclay. Vos travaux portent sur la philosophie de la physique et les fondements de la théorie quantique. Depuis 2003, vous vous intéressez aux questions éthiques et sociales des nouvelles technologies, en particulier des nanosciences et nanotechnologies. Vous étudiez les incertitudes du progrès technique et leur impact sur la gouvernance, l'application du principe de précaution et la perception des innovations technologiques par le public. Vos publications sont également dédiées au grand récit technologique et à l'analyse de la responsabilité des chercheurs, donc sujet qui vous intéresse. Vous appliquez les concepts anthropologiques afin de comprendre la fonction des images des nano-objets. Vos recherches plus récentes portent sur les questions éthiques de la biologie de synthèse, notamment la notion de vie dans le contexte éthique et historique. Vous avez été coordinateur pour la France du projet européen Observatoire européen des nanotechnologies, auquel vous avez contribué le Toolkit for Ethical Reflection. Bon, je ne dirai pas tout parce que je suis sûre que les étudiants vont se moquer de moi, mais vous le direz mieux que moi. And the Communication on Nanotechnology. Vous êtes membre de la CERNA, Commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique d'Alisten. Et vous êtes également membre du comité de pilotage du Forum de la biologie de synthèse. Nous avons de la chance. Merci beaucoup, Monsieur Greenbaum. À tout à l'heure.
Bonjour. Ça marche ? C'est bon, oui. C'est très bien. Bonjour. Merci pour l'invitation. Et ça fait toujours plaisir de revenir dans la même salle un an après. Si j'ai bien compris, hier, vous avez déjà parlé de beaucoup de choses autour des nanotechnologies, des questions juridiques, peut-être, du débat qui a eu lieu en France, non ? Un peu ? Bon, voilà, très bien. Alors aujourd'hui, on va peut-être un peu effleurer quelque part les mêmes sujets, mais vous allez voir que le but, c'est quand même de parler des questions éthiques et parce qu'il faut commencer avec des choses dures, je vais commencer avec ma définition de ce que sont les questions éthiques. Et j'ai un seul transparent qui définit l'éthique des sciences et des techniques. Voilà, pour que ça soit vraiment dur ce matin, c'est comme ça. C'est ma définition de l'éthique des sciences et des techniques. Alors, qu'est-ce que l'éthique des sciences et des techniques ? Ce n'est pas une histoire de dire ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est mauvais, il ne faut pas faire ça. L'éthique des sciences et des techniques, c'est avant tout une réflexion sur le sens du changement dans la condition humaine qu'apporte ce petit objet-là. Donc vous reconnaissez la condition humaine, n'est-ce pas ? Une sorte de pastiche d'un tableau de Lucas Cranach. Et quelle est la différence qu'introduit cet iPod ? Quelle est la différence ? D'ailleurs, vous voyez qu'il n'a pas juste ça. Il a beaucoup d'autres choses. Bon, Elia, qu'est-ce que vous voyez là ? Bon, le buste, ça c'est sûr, il y a un buste de philosophe grec qui est tombé par terre, puis il y a un monstre un peu étrange là-bas. Mais là, par exemple, cette pomme, vous voyez la pomme avec un visage humain, qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que cela veut dire qu'on va discuter des droits de la nature, enfin de la dignité interne de la nature, ou est-ce que peut-être c'est un organisme synthétique qui a juste pris la forme d'une pomme mais qui peut communiquer avec nous? Ce sont des symboles. Et puis vous voyez autre chose, qui voit un violon là, vous voyez? Ah oui, vous voyez, hein, c'est bon, voilà. Donc tout ça, évidemment chacun est libre d'interpréter, mais la question de l'éthique, ce sera une réflexion sur si vous voulez, ce paysage en nature, ce paysage naturel et ce paysage changé par les techniques. D'ailleurs, je vous signale que ce n'est pas du tout quelque chose d'obscur réservé à des philosophes universitaires. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est une couverture de The Economist de, je crois, décembre 2009. The Economist, donc quand même une revue qui est lue par des millions de gens dans le monde entier. Et vous voyez que ces sujets dont on va parler aujourd'hui, les sujets liés
au lien entre les techniques et le changement de la condition humaine dans notre situation dans le monde. Ces questions sont des questions auxquelles s'intéressent pas seulement les scientifiques, mais tous les gens, juste dans la mesure, n'est-ce pas, dans laquelle tout le monde aujourd'hui vit dans un monde technologique. Donc la vie de tout un chacun, sauf si, bon, si on est dans la jungle quelque part, la vie de tout un chacun est façonnée par les techniques. Alors, les images sont belles, mais quand même quelques mots avant d'entrer dans le contexte des nanosciences et des nanotechnologies, quelques mots encore sur l'éthique des sciences et des techniques au XXe siècle. Et je vous promets, c'est le seul transparent vraiment historique que je vous montre, mais s'il y a deux ouvrages à lire, s'il y a deux grands livres dont il faut retenir les noms, ce sont ces deux-là. Vous voyez, si je me mets comme ça au centre, non, il vaut mieux que je me mette peut-être sur le côté. Deux grands ouvrages, deux grands livres, et le premier et le deuxième dans le temps d'ailleurs, de Hans Jonas, qui est écrit aux années 70, donc aux années 70, on ne parle pas de nanotechnologie, n'est-ce pas, mais la génération des technologies qui, à l'époque, vraiment fait un peu rêver les gens. Qu'est-ce que c'est? Aux années 70, c'est le début de... Hein? Je n'entends rien, non? Allez, vous avez bu votre café, vous avez le droit de parler haut. Bon, un peu avant, on invente les transistors, donc l'informatique, ça commence aux années 60, n'est-ce pas? Mais il y a une chose qui commence vraiment aux années 70, c'est l'ingénierie génétique. Donc, pour Jonas, l'ingénierie génétique est encore la vague des nouvelles technologies qui arrivent. Mais ce que dit Jonas, c'est, regardez, c'est très intéressant, il dit le problème éthique, donc on a vu tout à l'heure ce changement dans la condition humaine, d'accord, qui est un peu le sens de la réflexion sur l'éthique des sciences. Et Jonas dit, ce qui se passe avec les nouvelles technologies, avec ces générations qui viennent de plus en plus vite des nouvelles techniques, etc., c'est que notre pouvoir d'action technique, donc notre pouvoir de changement du monde, notre pouvoir justement de donner des nouveaux objets à Adam et Ève, si vous voulez, ce pouvoir va beaucoup plus vite que le pouvoir de que la compréhension de ce que nous avons fait, que la création du sens, de la signification de ce que nous avons fait. Et donc l'exercice quotidien de notre pouvoir technique, qui constitue la routine de la civilisation technique, de la civilisation moderne, devient en soi un problème éthique, ou devient un sujet de réflexion éthique, parce que ça va plus vite que la création du sens, de la signification de ce que nous avons fait, que simplement notre façon de compréhender, de comprendre le changement de la condition humaine. Bon, ça reste assez théorique. Je vous ai promis 2 minutes de la théorie au début, et voici un ouvrage qui est écrit à la fin des années 50, publié en 59. Alors, quelle est la vague des nouvelles technologies qui fascine les gens en 1959 Comment? Pardon. Transistor 59, un peu tôt. Ça existe, ça commence à se développer, mais c'est pas du tout connu du grand public. C'est aux années 60 que ce sera vraiment connu du grand public. Mais, hein? Le laser, je dirais la même chose, c'est-à-dire ça commence à se développer, les masers, donc début des années 50, mais le grand public n'est pas encore du tout au courant de l'existence des masers et puis des lasers. Mais il y a une chose qui se passe en 57. Qu'est-ce qui se passe en 1957? L'ADN, c'est un peu plus tôt. Qui a dit l'espace? Qu'est-ce qui se passe en 1957? Le Spoutnik va dans l'espace. D'accord. Donc, pas encore Gagarine, mais le Spoutnik va dans l'espace. Et pour Hannah Arendt, qui écrit La condition de l'homme moderne à la fin des années 50, la dernière génération, c'est le voyage dans l'espace. Alors, vous voyez qu'on est bien loin. et de la microélectronique, et, enfin loin évidemment, tout ça entre quelque part, mais les fantasmes, les rêves de la population qui entend parler des voyages dans l'espace, ne sont pas du tout liés à la biologie, ne sont pas liés aux nanotechnologies, c'est tout autre chose. Et Arendt, et c'est le génie d'Arendt, Arendt écrit un livre qui sera pour les années à venir la référence, si vous voulez, de la philosophie des techniques. Et Arendt, dans ce livre, d'ailleurs je vous conseille de lire le livre entier, il est extrêmement intéressant. Arendt, dans ce livre, dit une chose qui n'est pas du tout banale. Regardez, je ne sais pas si vous en avez parlé hier, mais très souvent, vous entendez les gens dire « on est tous devenus des esclaves de nos machines ». N'est-ce pas, hein ? Vous avez parlé un peu de cette histoire hier. Et Arendt dit quelque chose qui n'est vraiment pas évident. Arendt dit « non, ça c'est une banalité qui n'a pas beaucoup d'intérêt philosophiquement, on va dire ». Mais il y a quelque chose qui n'est pas trivial. Et ce n'est pas l'idée qu'on soit devenu des esclaves de nos machines, mais c'est l'idée qu'on est devenu des esclaves de notre savoir-faire. Du moment où on sait faire, du moment où on a le know-how, le savoir-faire, on fera. Et donc, dit Arendt, « We have become the helpless slaves, not so much of our machines as of our know-how. Thoughtless creatures at the mercy of every gadget that is technically possible. » Et cette idée que du moment où quelque chose est possible, d'ailleurs, du moment où quelque chose est possible, ce sera fait, c'est une idée extrêmement qui dérange, hein, n'est-ce pas ? Mais qui est pas du tout évidente. Vous avez vu le film Prometheus ? Quelqu'un a vu le film Prometheus ? Hein ? Prometheus qui est sorti en automne à peu près, c'est ça, je pense. Oui, ah ouais, il y a quelques-uns. Vous vous souvenez, peut-être, il y a un robot qui demande à son créateur humain dans ce film, « Pourquoi m'avez-vous fait ?» dit-il. Et l'homme lui dit, « Because we could. » Parce qu'on savait faire. Parce qu'on pouvait faire. D'accord, hein? Quelqu'un se souvient de ça, peut-être ? Ouais, voilà. Alors ça, c'est la même question, c'est le même problème derrière. Vous avez parlé hier de M. Feynman, j'imagine, et des citations de Feynman qui sont un peu les mythes originels des nanotechnologies. Vous voyez, plenty of room at the bottom. Hein, vous connaissez un peu ça. Alors, M. Feynman a dit une chose très non évidente, disons, à la fin de sa vie. Quand il est mort sur un tableau noir dans son bureau, on a découvert un texte qui dit littéralement ceci. « What I cannot make, I do not understand. » D'accord ? Ce que je ne peux pas fabriquer, je ne comprends pas. Vous voyez, ça c'est le même problème. D'accord ? C'est Anna Arendt aux années 50. Bon, évidemment, elle n'est pas la toute première dans l'histoire. Mais elle dit, c'est ça le problème central de la condition humaine. L'homme, du moment où il sait faire, il fera. Alors, on reviendra à cette question à la fin. Mais maintenant, revenons à nos nanotechnologies. Donc, vous avez hier, sans doute, parlé de ce débat national sur les nanotechnologies qui commence sur la commande du gouvernement français en 2009. Vous en avez parlé ? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, vous avez peut-être remarqué, non ? Quelqu'un a fait cette remarque hier que parmi tous les ministres qui ont signé la commande, vous n'avez pas vu ce... Alors, ça, c'est la lettre de demande adressée par le gouvernement à la Commission nationale du débat public. Il y a tout un tas de ministres là qui signent. Vous voyez, ministre de l'écologie, économie, intérieur, même ministre de la défense, là, quelque part. Il y en a un qui manque. Qui n'est pas sur cette liste. Hein? Enfin, un, il y en a plusieurs qui ne sont pas, mais il y en a un dont on pourrait penser qu'il soit quand même, qu'il devrait être intéressé. Si, la recherche est là. Par contre, l'éducation nationale n'est pas là. D'accord, hein? Ça, c'est ce qui est assez intéressant. Donc, c'est comme si une question de recherche n'était pas une question d'éducation nationale. D'accord, vous voyez. Alors, bon, donc ce débat, comme vous savez, a été planifié dans 17 villes françaises, dans chaque ville, donc à partir de l'automne 2009. Dans chaque ville, il avait, vous voyez, c'était structuré assez sérieusement. Dans chaque ville, il avait un sujet d'intérêt local et un thème général. Donc, si vous prenez, je ne sais pas, par hasard, on va prendre au hasard Clermont-Ferrand, vous avez l'automobile, parce qu'évidemment, c'est un sujet intéressant pour la région. Et donc, ça commence à Strasbourg, ça, vous en avez probablement parlé, ça commence à Strasbourg par un débat un peu bureaucratique avec les gens de la Commission européenne qui expliquent la stratégie de la Commission européenne, etc. Puis la deuxième réunion à Toulouse, la salle, 20 minutes après l'ouverture du débat, est évacuée parce que quelqu'un ouvre une bobine d'ammoniac dans la salle. Donc attaque chimique, le préfet n'est pas content, n'est-ce pas? Alors après, à Grenoble, vous avez trois rangées de CRS, le débat est chahuté et annulé d'ailleurs après une demi-heure à peu près. Marseille, la même histoire, Lyon, la même histoire. À Orsay, la salle est dégradée la veille du débat, les trois derniers sont annulés, ça se passe comme ça, il a des graffitis sur les murs, nanomonde égale maxi-contrôle, il a des sites web des gens qui disent que le nanomonde c'est maintenant qu'il faut le combattre, il a des banderoles qu'on ouvre sur la scène et qui disent nano c'est totalitaire, etc., etc. Bon, ça vous avez peut-être vu ça hier, et ça vous a peut-être déjà choqué un peu, si vous n'êtes pas là vous-même il y a 3 ans, mais la question pour nous aujourd'hui ce sera d'essayer de comprendre ce qui s'est passé finalement. Comment ça on fait, vous faites tous de la science dans les laboratoires, vous êtes allés dans un labo de chimie, de physique, de biologie, d'informatique, vous avez fait des recherches. Et vous n'étiez pas des dictateurs totalitaires. Non, vous avez fait de la science. Et pourquoi cette réaction de la société? Parce que ce n'est pas une réaction à quelqu'un là que vous ne connaissez pas du tout. C'est une réaction adressée à vous, à nous, en tant que scientifiques. Alors, comment peut-on la comprendre? Qu'est-ce qu'on est en train de faire dans les labos de tellement spécial, tellement particulier qu'on a le droit à cette réaction-là. Pourquoi toute cette réaction? Comment peut-on la comprendre? Et ça, ce sera un des sujets dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui. Alors, je vous signale que ce n'est pas du tout exclusif aux nanotechnologies. Il y a des mouvements de protestation similaires, par exemple, contre la biologie. Donc l'Inatec c'est un labo à Grenoble, il y a des sites web où on trouve des articles contre la biologie de synthèse, donc ce n'est pas du tout exclusif pour les nanotechnologies, encore que quand on dit exclusif pour les nanotechnologies, ça ne veut rien dire évidemment, parce que les nanotechnologies ça inclut tout un tas de différentes disciplines et scientifiques et technologiques dans plusieurs domaines. Et donc quelques mots quand même pour mettre tout ça dans un contexte plus large, parce que la science ne se fait pas en France au niveau national, n'est-ce pas? La science est une aventure internationale qui ne connaît pas tellement les frontières. Et donc, ça, c'est le site français de ce débat national, que vous avez vu déjà hier, ce transparent. C'est la page d'accueil du site du débat sur les nanotechnologies, et si je puis dire, c'est très français, c'est-à-dire il y a des milliers de pages de rapports de toutes sortes. Tous les acteurs ont contribué des rapports, des cahiers d'acteurs, des rapports de différentes institutions. Il y a des textes, vous voyez, hein, il y a beaucoup de mots. Et puis, si vous cliquez, il y a encore des textes, etc. Et puis, je vous montre le site web du débat national sur les nanosciences et les nanotechnologies. Donc, le même contenu, débat national sur les nanosciences et les nanotechnologies aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, c'est comme ça. Alors, vous voyez, vous commencez à voir la différence, n'est-ce pas? Donc là, il y a un monsieur très sérieux avec un professeur, avec son microscope, qui nous regarde en plus dans les yeux, n'est-ce pas? Et vous voyez que, je souligne, c'est le même contenu scientifique, mais présenté au public, qui ne connaît pas la science, d'une façon différente. Donc, on est en train de proposer le même débat, mais la perception, vous voyez, n'est pas du tout la même des nanosciences. Et puis maintenant, le site web du débat national sur les nanosciences et les nanotechnologies, encore, en Angleterre. Donc là, vous voyez, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de ce qu'on appelle les usages finaux, n'est-ce pas ? Donc les nanosciences et les nanotechnologies pour le sport, l'environnement, la médecine, l'alimentaire, l'électronique, est-ce qu'il y a d'autres ? Il y a même un robot, là, ce qu'on appelle la maison intelligente, même avec un robot qui est en train de tondre l'herbe. Cosmétique, probablement là, parce qu'il a il a une crème solaire. Ah, sur l'affiche aussi, d'ailleurs. Tiens, probablement, il a des liposomes. On va en parler, si vous voulez, donc là. Et puis, des crèmes solaires, là. Vous allez parler tout à l'heure du dioxyde de titane dans des cosmétiques. Donc, vous allez beaucoup apprendre sur les cosmétiques. Vous voyez qu'il s'agit du même contenu scientifique et technique, donc le même débat. Et pourtant, l'image qu'on donne des nanosciences et des nanotechnologies à la société n'est pas du tout la même. Et finalement, quand même, il fallait dire un petit mot sur l'Allemagne. En Allemagne, il y a eu un débat, plus ou moins. Et ce débat, il n'avait pas vraiment de site web, c'était comme ça. Ils ont envoyé quelques mails disant « Venez discuter à Berlin si vous voulez bien ». Vous voyez que le même débat, la même initiative de parler avec la société des nanosciences et des nanotechnologies peut se passer des façons très, très différentes. Que finalement, le contenu scientifique ne détermine pas la façon de présenter ce contenu à la société. On peut en parler d'une manière un peu à la française, comme au début, comme aux Pays-Bas, comme en Angleterre ou comme en Allemagne. Et alors, finalement, quand on se demande à quoi ont servi tous ces débats, c'est la fin de l'historique des débats, si vous voulez. Quand on se demande finalement si ça a vraiment changé les connaissances au sein de la société, vous voyez que le débat français, donc ça c'est avant le débat, ça c'est après le débat. Le chiffre de gens qui connaissaient, qui avaient entendu parler des nanos n'a pas vraiment bougé. Donc au niveau français, en tout cas, on sait que ce débat, même s'il a eu beaucoup d'écho dans la presse, n'a pas vraiment changé les choses. Et puis, ce n'est pas du tout uniquement en France. Si vous regardez par exemple la Suisse, qui a vécu son moment du débat aussi, en Suisse, on trouve que 2 ans après le débat, donc le débat suisse était à peu près la même époque que le débat français, 2 ans après, des sociologues ont fait des études et trouvent que la connaissance de tous les champs d'application a diminué et puis que la connaissance du public sur les nanotechnologies est devenue plus abstraite. Vous voyez que l'exercice même du débat, finalement, n'a pas vraiment contribué à changer notre connaissance, de la société tout entière, connaissance des nanosciences et des nanotechnologies. Et la question, c'est la première que je vous ai déjà posée, c'était qu'est-ce qui s'est passé pendant ce débat en France ? Pourquoi cette protestation ? Pourquoi cette réaction ? Et puis la deuxième question, c'est si ce débat ne change pas beaucoup la connaissance du public, alors comment peut-on interagir avec le public différemment ? Comment peut-on comprendre ces processus de diffusion de connaissances au sein du public ? Donc, si ce n'est pas par le débat, alors comment est-ce que ça se passe ? Voilà. Donc, on laisse de côté l'historique du débat et maintenant, on entre un peu dans le vif du sujet. Et la première chose que je veux vous dire, c'est que ce que vous avez appris sur les nanotechnologies avant, donc jusqu'à la journée d'hier, j'imagine, dans les cours techniques et scientifiques, ce n'est qu'une des trois faces, un des trois aspects de ce qu'elles sont. Il y a bien un phénomène scientifique et technique qui s'appelle nanosciences et nanotechnologies, qui est caractérisé par, bon, vous me rappelez, par l'échelle, tout le monde sait. Mais l'échelle ne définit pas encore les nanosciences et les nanotechnologies. Il faut ajouter quelque chose là parce que... Bon, l'échelle du nanomètre, d'accord, de 1 à 100 par exemple, ou 1 à 500 comme vous voulez. Mais quand vous respirez dans cette salle, l'air entre dans vos poumons et là, combien de nanoparticules qui entrent dans vos poumons? On vous a dit hier. Hein? Bon, ça dépend. Ici, la salle n'est pas parfaitement aérée. Donc, il y en a pas mal. Il y en a probablement quelques même dizaines de milliers, ce qui est possible, 20 000. Alors, d'où viennent-elles, ces nanoparticules? D'où proviennent-elles? Elles proviennent des éruptions volcaniques et des feux. C'est la première cause de ces particules-là. Donc, dire que finalement, la taille caractérise les nanotechnologies, non, parce que les feux produisent des nanoparticules. Donc, il faut ajouter quelque chose. Il faut ajouter les propriétés, des propriétés nouvelles, n'est-ce pas? Des propriétés qui sont différentes à cette échelle-là. Alors, quand vous ajoutez des propriétés nouvelles, est-ce que ça suffit pour définir les nanosciences et les nanotechnologies? Bon, quelqu'un... Vous voyez? Intention de fabriquer, sans doute, mais intention de fabriquer, d'utiliser ces nouvelles propriétés à l'échelle nanométrique. Par exemple, la chimie, ou la chimie tout à fait traditionnelle, elle aussi utilise les propriétés. Donc, je ne sais pas si j'ai probablement pas... Non, j'ai pas ce transparent-là. Est-ce que vous avez vu la coupe de Lycurgus, peut-être, non? Une coupe donc pour boire grecque, enfin plutôt romaine en fait, hellénistique, qui est au British Museum de Londres, non? Quand vous l'éclairez de l'intérieur, bon, je vais peut-être retrouver ça tout à l'heure, quand vous l'éclairez de l'intérieur, elle est très belle. Par contre, quand vous le regardez juste de l'extérieur, vous ne voyez pas grand-chose. Et c'est grâce à l'utilisation de nanoparticules métalliques. Donc c'est pas l'utilisation des nouvelles propriétés de la matière à l'échelle nanométrique, ce n'est pas une affaire des années 1980 ni 90. C'est assez ancien. Et par contre, qu'est-ce qui change en 1986? C'est l'invention du STM, du microscope à effet tunnel. Donc, ce qui est vraiment nouveau, ce qui définit vraiment l'apparition des nanosciences, nanotechnologies comme une vague nouvelle des technologies à notre époque, c'est l'invention des instruments. Et chaque fois qu'on vous parle de révolution technologique, la première idée qui doit vous venir en tête, c'est est-ce qu'il y a une révolution dans les instruments. La révolution technologique ne se fait pas sans changement, sans invention des nouveaux instruments. Donc les nanosciences, les nanotechnologies, oui, bien sûr, elle est à l'échelle, oui, bien sûr, elle a les nouvelles propriétés, mais ce qui change vraiment, c'est l'invention des nouveaux instruments. Donc microscope à effet tunnel, microscope à force atomique, enfin tout un tas d'autres types de microscopes et autres techniques, et ça, c'est vraiment nouveau. Alors ça, c'est le premier aspect des nanosciences et nanotechnologies, mais c'est un peu l'analyse, donc le premier élément d'analyse que je vous propose. Ce n'est pas la seule chose qui, aujourd'hui, s'appelle nano au sein de la société. Parce que les nanos, d'un côté, quand vous allez regarder le financement des projets de recherche, vous savez, bon, peut-être vos directeurs de futures thèses, n'est-ce pas, ou de thèses actuelles, ont déjà demandé du financement à l'ANR ou à l'Europe, à la Commission européenne. Vous avez vu comment on écrit ces projets. Il y a le mot nano qui apparaît assez souvent parce que les budgets sont structurés avec des lignes budgétaires qui disent nanotechnologie, nanomatériaux, nanoélectronique, etc., etc. Par exemple, parmi les key enabling technologies, donc les nouvelles technologies clef qui vont définir le financement de la recherche, sont un peu les axes selon lesquels la recherche en Europe sera financée jusqu'à 2020, dans l'horizon 2020, le nouveau programme européen 2014-2020, il y a les nanomatériaux. Donc ça, c'est un autre aspect de ce qu'on peut appeler nano, dans ce cas-là, sans faire beaucoup de différence entre nanosciences et nanotechnologies. Nano, c'est un phénomène économique et industriel, parce que non seulement les budgets du financement de la recherche contiennent des lignes budgétaires qui disent nano, mais vous avez des indices boursiers nanotechnologie. Donc vous avez par exemple aujourd'hui des boîtes de consulting qui vous disent, bon, à la bourse, les compagnies qui font des nanotechnologies, par exemple, coûtent, je ne sais pas, 1% moins cher qu'hier. Et donc ça, c'est un autre univers où le mot nano circule et a un sens. Et on ne va pas en parler. Par contre, aujourd'hui, on parlera de ce troisième aspect, ou si vous voulez, troisième définition du mot nano, qui est un peu la composante sociale des nanos. Et là, regardez, voici quelques titres de presse française d'avant le débat national. D'accord ? Donc ça se passe en 2007, c'est avant le débat que vous avez vu là tout à l'heure. Vous avez nanotechnologie, par exemple, bientôt à l'usine. Donc là, vous reconnaissez l'aspect économique, n'est-ce pas, dont on vient de parler. Nanotechnologie, une chance pour les PME, encore une fois, pour aspect économique. Mais également, par exemple, mieux copier la nature avec les nanotechnologies. Là, il s'agit de quoi ? De biomimétisme, des stratégies de limitation de la nature dans la conception des nano-objets. On en, je ne sais pas si on va en parler, mais peut-être deux ou trois mots tout à l'heure. Alors, il y a des choses assez étonnantes. Il y a parmi tout cela, donc là, on a vu cette définition, mais il y a la nanotechnologie, la révolution invisible, la vie du peuple, plus un comité d'éthique qui se penche sur les nanotechnologies. Vous avez les comparaisons entre nanotechnologie et les OGM. Vous avez également les nanotechnologies, par exemple, et les questions militaires, des nanotechnologies qui dérangent. Vous voyez, le spectre est assez large. Et finalement, j'ai mis en bas ce titre d'article, on trouve des nanotechnologies partout. Et c'est vrai, on associe les nanotechnologies à toutes sortes de choses. Et ça va être ce troisième aspect, cette troisième définition des nanos, où d'un côté, vous avez le iPod Nano, vous connaissez, j'imagine. Hein? Est-ce qu'il s'appelle Nano parce qu'il a des nanotechnologies dedans? Est-ce qu'il y a des nanotechnologies dedans? Oui, la réponse est oui, parce qu'il a de la nanoélectronique. Alors, est-ce qu'il s'appelle nanoélectronique, pas à 22 nanomètres, mais pour ceux d'entre vous qui travaillent sur les transistors, à 43 probablement, enfin, voire un peu plus, mais il y a de la nanoélectronique. Alors, est-ce qu'il s'appelle nano parce qu'il y a de la nanoélectronique? Non, mais parce qu'il est petit. Voilà, donc nano, dans ce cas, nano prend le sens de petit, n'est-ce pas? Et puis, quand vous avez entendu parler peut-être de Tata Nano, cette voiture en Inde. Donc, vous voyez, nano car. D'accord, si vous voyez, je ne sais pas. Là, elle s'appelle pas nano parce qu'on utilise des peintures structurées à l'échelle nanométrique. Évidemment, elle s'appelle nano parce qu'elle est petite, la plus petite, n'est-ce pas? Et puis, il y a tout un tas d'autres choses. Vous voyez le mot nano partout. Mais ça, là, le mot nano, oui, il y a peut-être des matériaux nanostructurés dedans. Mais le sens du mot nano ici, c'est moderne. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on vend des produits chimiques avec le mot nano sur l'étiquette? Parce que ça communique cette aura de modernité, de nouveaux produits, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment la dernière invention, le dernier mot de la technologie. Et puis, je n'ai pas le droit de mettre sur un transparent, mais d'ailleurs, je vous signale qu'il existe des cigarettes où sur le paquet, c'est marqué nano. Ça, il y en a déjà quelques marques de cigarettes. Donc, vous voyez que ce mot nano, finalement, il diffuse, il est utilisé pas du tout en lien avec son sens scientifique précis, mais comme synonyme de petit, moderne. Vous avez les synonymes là. Et finalement, on va encore plus loin. On arrive à la nanolittérature et le nanoart. Et donc, il y a des romans, ça, c'est tout un courant de science-fiction aujourd'hui, la nanolittérature, qui parle normalement des nanorobots. Je vous ai mis ici un roman, mais il y en a déjà une bonne dizaine, de différents romans de nanolittérature. Et puis, les expositions de nanoart, je ne sais pas si vous avez déjà vu, le nanoart, c'est la mise en couleur, donc la représentation artistique, par un artiste, de ces images qui sortent des microscopes. Et on va en parler tout à l'heure. Donc, tous ces phénomènes qui n'ont plus grand-chose à voir avec notre recherche scientifique au sein des labos, tout ça s'appelle nano aussi. Vous voyez que finalement, nano, c'est lié aujourd'hui à toutes sortes d'idées qui circulent autour des technologies, l'idée de salut ou de transgression ou de catastrophe, et avec toutes ces idées de révolution, catastrophe, transgression des frontières, salut, le mot nano acquiert un sens qui est un peu sa définition sociale. Nano, c'est ce qui est invisible, petit, imperceptible, et c'est ce mot, ce sens, cette définition sociale du mot nano qui va jouer en parallèle avec le sens scientifique du mot et l'aspect économique de ce phénomène. Donc, il y a ce troisième aspect du mot nano qui est réel. Quand vous dites à un citoyen dans la rue, qu'est-ce que vous savez des nanos, il va probablement penser aux choses petites spontanément. C'est-à-dire, il va chercher comme nano tout ce qui est petit. Alors, vous avez peut-être des passes pour les transports dans vos villes. Donc des puces RFID, vous savez, quand vous pouvez juste un peu mettre votre passe à côté de la machine, c'est que le contact entre la machine et votre passe de transport se passe par des radiofréquences, par l'identification en radiofréquence, donc un champ proche. RFID, vous avez entendu parler des puces RFID, n'est-ce pas tous? Alors, est-ce que c'est nano? Qu'est-ce que vous en... D'abord, je vais poser une autre question. Quand vous demandez à votre ami, à votre mère, à votre petit frère, si c'est nano ou pas, vous vous attendez à quelle réponse? C'est petit, non? Bon, en tout cas, je vous assure, techniquement, ce n'est pas nano, c'est micro. Par contre, les questions qu'on va se poser autour des puces RFID, par exemple, questions relatives à la vie privée, etc., ce seront exactement les mêmes questions qu'on se pose autour des nanotechnologies en électronique. Et c'est là qu'on va arriver après cette autre séquence. Donc là, je ferme la partie sur les trois aspects, trois définitions, et quelques mots, encore une fois, des questions juridiques dont vous avez, je pense, discuté hier avec Stéphanie Lacour. Donc, très, très vite, je vous rappelle qu'il y a en France cette loi, la loi qui est unique au monde. Alors, vous savez peut-être depuis hier pourquoi. Elle crée une obligation pour tous les acteurs qui utilisent des nanoparticules, des nanomatériaux, de déclarer à une autorité administrative qu'ils le font, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui est spécial, qu'est-ce qui est bizarre pour vous qui travailleront peut-être, enfin certains d'entre vous travaillerez dans le privé. Alors ce qui est bizarre, regardez, cet après-midi vous allez parler des nanos dans les cosmétiques, tout à l'heure même. Alors vous pouvez parler des nanomatériaux, donc de la chimie, vous pouvez parler de nanoélectronique, n'est-ce pas? Cette loi, est-ce qu'elle fait la différence, la distinction entre tout ça? Non, cette loi, c'est la première fois dans le monde qu'on légifère en matière de nanosciences, nanotechnologies, sans faire une loi particulière pour tel secteur industriel. Quelle que soit l'industrie, il y a une loi. Vous voyez que c'est le phénomène scientifique, c'est le phénomène technologique qui est à l'origine de la loi et pas du tout une telle industrie ou une telle autre industrie. Et c'est nouveau. Personne n'a jamais fait ça. Et on se demande quelles seront les conséquences. On ne sait pas. On ne sait pas comment cette information sera utilisée. Le gouvernement a pris d'ailleurs 2 ans pour passer du stade d'une loi au stade de décret d'application et puis des arrêtés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un débat sur les définitions, vous en avez parlé hier, je pense, non? Donc, définition des nanomatériaux publiée le 18 octobre 2011 par la Commission européenne. Et si les définitions des nanomatériaux sont publiées le 18 octobre 2011, donc une bonne dizaine d'années, voire plus, après le début de cette vague des nanotechnologies, ce n'est pas parce qu'on ne savait pas définir ça au début, c'est parce qu'il fallait trouver une définition consensuelle entre différents experts, et pour les nouvelles technologies, c'est la chose la plus difficile. Quelle que soit cette génération de nouvelles technologies, formaliser une définition, chacun vient avec sa propre définition. Trouver une définition consensuelle, acceptée par tout le monde, c'est une tâche formidable, vraiment, vraiment très difficile. Et c'était comme ça avec les nanomatériaux, c'est comme ça avec la biologie de synthèse, quelle que soit vraiment la vague des nouvelles technologies. Et puis finalement, la France utilise cette définition de la Commission européenne du 18 octobre 2011. La définition n'est pas très précise, mais elle a le mérite d'exister en tout cas. Et la France finalement lance, vous avez vu ça hier, a lancé un site web qui s'appelle R-Nano, registré, donc enregistré nano si vous voulez, register nano, où chaque acteur, y compris les organismes de recherche, vraiment tout le monde, y compris les organismes de recherche, doit dire au gouvernement qu'il utilise tel ou tel autre nanomatériau ou nanoparticule, ou substance à l'état nanoparticulaire, c'est le langage officiel, à partir de 100 mg, je crois. Qu'est-ce que va faire? Vous voyez que cette information va à l'ANSES, donc à l'Agence de sécurité sanitaire. Quel sera l'usage de cette information? On va voir. Cette information, dans la partie qui n'est pas secrète, sera rendue publique à toute la société française en ligne à partir de, je crois, du 1er novembre, quelque chose comme ça, au 1er décembre de cette année, de 2013. Donc, voilà, à partir de maintenant, vous allez tous pouvoir vérifier quelles nanoparticules utilise, par exemple, votre université ou une société qui se trouve en face à travers la rue, ou, ce qui est encore un autre développement dont vous allez parler sans doute tout à l'heure pour les cosmétiques, à partir du 1er janvier, quand vous achetez votre crème solaire sur les... Bon, on n'a pas de tableau, bon, je ne vais pas écrire. Sur les bouteilles des crèmes solaires, derrière, il va être marqué titanium dioxyde et entre parenthèses, entre crochets, nano. Donc, les crèmes solaires, vous savez, utilisent le dioxyde de titane. On a créé, et ça, c'est le Parlement de Strasbourg et pas le Parlement français, le Parlement de Strasbourg a créé une obligation d'étiquetage pour le dioxyde de titane à l'état nanoparticulaire. Donc, on a informé le consommateur. À partir de maintenant, le consommateur pourra lire en toute petite lettre là derrière, vous savez, si jamais vous lisez ça, que c'est dioxyde de titane nano. Et question, comment on va changer le marché, les ventes? Est-ce que les gens vont avoir peur? Quel message est-ce qu'on envoie? Vous voyez que communiquer les données, ce n'est pas du tout communiquer un message. D'accord? Le sens du message n'est pas déterminé par les données scientifiques que vous communiquez. On va dire que c'est du dioxyde de titane en forme nanométrique, mais alors quel sens de ce message pour le consommateur? Et là, on va voir d'ailleurs, l'industrie cosmétique va voir pour le dioxyde de titane, ça va être intéressant, quelle dynamique si jamais il y aura des changements dans les ventes des crèmes solaires. Mais ça, c'est cette question dont nous avons déjà parlé au début, que l'aspect purement scientifique et technique ne crée pas encore le sens du message que comprend le citoyen. Le sens est à créer à côté des données. Les données ne sont pas tout le message. Alors, finalement, si vous vous intéressez à ces questions, je vous recommande ce site. Le site qui est fait par le CERF Grenoble, qui s'appelle NanoSmile, où sur la sécurité des nanomatériaux, vous trouvez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Il est vraiment bien fait, avec des vidéos, avec même des petites animations. Il y a beaucoup de choses. Donc, si vous vous intéressez et à la toxicité des nanomatériaux, et aux questions de gouvernance, pourquoi des lois, pourquoi, comment ça marche, tout ça. Alors, regardez NanoSmile, c'est un très joli travail de nos collègues grenoblois. Finalement, deux mots encore sur ce qui se passe à l'échelle européenne. La Commission européenne s'intéresse aux questions autour des nanotechnologies depuis longtemps, évidemment, pas seulement les questions scientifiques, mais également les questions éthiques. Donc, on revient là à l'éthique, après cette petite excursion juridique, etc. La Commission européenne a commandé plusieurs rapports, parce que c'est comme ça que fonctionne la Commission européenne. Et parmi ces rapports, d'ailleurs, en 2008, donc beaucoup de choses différentes, en 2008, la Commission européenne a publié, vous voyez un petit document là que vous allez voir tout de suite en plus grand, qui s'appelle le code de bonne conduite en nanosciences pour la recherche en nanosciences et nanotechnologie. Quelqu'un d'entre vous a entendu parler du code de bonne conduite à Paris hier, peut-être ? Non ? Voilà. Et pourtant, c'est le document européen destiné aux chercheurs, paraît-il, dont les chercheurs, et vous n'êtes pas les seuls, n'ont pratiquement jamais entendu parler. Et c'est d'ailleurs un des grands problèmes pourquoi les débats à Bruxelles n'aboutissent pas dans les labos, enfin, ne sont pas entendus par les chercheurs. Et ce document, il est particulier. Il a beaucoup de grands principes. Il pose vraiment ce qu'on appelle en éthique des règles de déontologie, c'est-à-dire les principes qu'il faut appliquer à son travail un peu a priori. Donc, il faut respecter les droits de l'homme. Vous voyez, est-ce que vous respectez au labo les droits de l'homme ? Comment savoir ? Et puis, parmi les grands principes et les lignes directrices, il y a, par exemple, il y a un principe de responsabilité. Lisons ce principe de responsabilité. Les chercheurs et les organismes de recherche demeurent responsables des incidences sur la société, l'environnement, la santé humaine, etc., que leur recherche en nanosciences et nanotechnologies peuvent entraîner pour les générations actuelles et futures. Pas mal ? Hein ? Vous n'avez pas envie d'aller tuer quelqu'un à Bruxelles, non ? Bon, en tout cas, quand un chercheur lit ça, une des questions, peut-être même la première question qu'il se pose, c'est pour les générations futures, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est-à-dire, je suis responsable des usages qu'on fera par la suite de mon travail. Évidemment, moi, je n'avais pas du tout prévu ces usages. Donc, vous voyez, un des prix Nobel de physique français, Albert Fert, a travaillé sur la magnétorésistance géante aux années 80. Ça a donné... Qu'est-ce que ça a donné ? Les disques durs et les mémoires d'ordinateurs actuels. Est-ce qu'il avait prévu cet usage en 1980 ? Bon, pas exactement. Alors, est-ce qu'on tient aujourd'hui Faraday ou Edison responsables de nos problèmes d'électricité ? Et pourtant, on est des générations futures, n'est-ce pas, de ces gens-là. Alors voilà, la question c'est, qu'est-ce que cette responsabilité ? Est-ce que c'est une responsabilité légale ? Est-ce que c'est une responsabilité morale ? Est-ce que c'est une responsabilité individuelle ou collective ? Et d'ailleurs, si vous regardez la suite de ce code de conduite, il a été analysé par un projet européen qui s'appelle Nanocode, où les chercheurs ont pu dire librement ce qu'ils en pensent. Et ce code de conduite a été jugé, à cause de ça d'ailleurs, a été jugé, cette ligne en particulier, inacceptable. Donc vous voyez, avec des mots très, très, très forts, hein, là on parle politique, inacceptable. Et donc on a demandé une révision fondamentale, qui évidemment n'a pas eu lieu. Mais vous voyez que cette responsabilité proclamée par la société, parce que ce code n'a pas été écrit par les chercheurs, il a été écrit par essentiellement des politiques ou des gens engagés dans différentes discussions politiques, débats politiques, vous voyez que cette responsabilité dont il est question, bon, c'est pas, en anglais d'ailleurs on utilise le mot accountability, qui n'est pas la même chose que liability. Liability, la responsabilité légale, accountability, une sorte de responsabilité morale, mais en français comme en allemand par exemple, il n'y a pas deux mots pour ça, le mot responsabilité. Alors, il faut distinguer légal de morale, donc deux formes de responsabilité, ensuite collectif de l'individuel, etc., etc. Et on va parler, ça c'est peut-être la plus grande question qui intéresse aujourd'hui les chercheurs en nouvelles technologies, c'est quelles évolutions de cette notion de notre responsabilité envers la société. Et on va en dire deux mots tout à l'heure, mais pas beaucoup. Si vous voulez, on peut revenir pendant le débat, pendant la discussion à la fin. C'est vraiment quelque chose de fondamental, et pour vous aussi. C'est la question de votre exposition, un peu à l'exposition de vos travaux à la société au sens large. Quand vous parlez devant la société, vous présentez les fruits de votre recherche à la société, de quoi êtes-vous tenu responsable ? Non pas quelle responsabilité prenez-vous sur vous-même, Ça, c'est autre chose. Mais de quoi êtes-vous tenu responsable par ce citoyen lambda, si vous voulez? Ça, c'est pas du tout quelque chose d'évident. Bon, alors, finalement, donc, la Commission européenne a décidé de passer outre ses recommandations du projet Nanocode sur le code de conduite et a décidé de créer, et ça, ça va vous toucher tous, je pense, à partir de 2014, ce qu'on appelle le cadre de recherche et innovation responsable, qui sera maintenant quelque chose d'obligatoire, un élément obligatoire pour tous les projets de recherche soumis à la Commission européenne. Donc, quand vous, avec vos directeurs de thèse, avec vos futurs chefs de laboratoire, etc., quand vous allez demander un financement européen, vous savez que normalement, à la fin, il y a une petite page sur l'éthique. Quelles sont les questions éthiques liées à mon projet? Non, quelqu'un a déjà eu à remplir ça, peut-être, non? Bon, voilà, donc ça, c'est la routine des projets européens. Mais maintenant, cette page sera remplacée par qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour que votre recherche soit responsable? Et donc, on va utiliser toutes sortes de codes de conduite et autres instruments. Et ça, c'est pour tous les projets, toutes les disciplines confondues, hein, pas en éthique, mais vraiment des projets scientifiques. Donc, réfléchir sur la responsabilité fait partie aujourd'hui de la réflexion sur sa place au sein de la société en tant que chercheur. Que suis-je quand je suis chercheur? Que suis-je vu par la société? Que suis-je pour la société, etc. Bon, alors, voici mon transparent principal et puis on va aller vers la fin. Le transparent principal, c'est le panorama, si vous voulez, s'il y a un transparent à retenir, c'est celui-là, c'est le panorama des questions éthiques, panorama des différentes questions éthiques qu'on pose aujourd'hui à propos des nanosciences et nanotechnologies. Donc, avant de parler de ces différents types de questions éthiques, premièrement, ce ne sont pas des questions qui ont une réponse oui ou non objective, ce ne sont pas des questions de science. D'accord ? Les questions de changement de la condition humaine d'Adam et Ève tout à l'heure, vous avez vu, ce n'est pas une question qui a la bonne réponse. Ça n'existe pas. Donc, ça demande une réflexion et une discussion. Deuxièmement, ces questions ne sont pas nouvelles. Les nanosciences et les nanotechnologies ont beau d'être nouvelles avec les nouveaux instruments, mais le questionnement éthique à propos des nouvelles technologies n'est pratiquement jamais nouveau. Ce sont les questions que nous héritons des générations précédentes, des nouvelles technologies. Et vous allez voir d'ailleurs comment ça se passe tout à l'heure. Et puis finalement, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui un peu plus qu'aux années 50, qu'aux années 60, qu'aux années 70? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi aujourd'hui il y a des cours comme ça, tandis qu'il y a 10 ans, il n'y en a pas eu? Parce que ce qui a changé vraiment, si vous voulez, aujourd'hui, c'est un peu la situation science-société dans laquelle nous sommes. La tour d'ivoire dans laquelle, aux années 50, bon, évidemment, tour d'ivoire entre guillemets, mais la tour d'ivoire des années 50, où on pouvait tranquillement rester au labo et faire son travail, c'est fini. La tour d'ivoire n'existe plus. On est tout le temps exposé aux pressions sociales, on discute avec la société. Et ces pressions sont positives, il y a aussi du feedback, on change notre façon de travailler à cause de ce dialogue, et puis évidemment cette situation en société est marquée par les grandes affaires dont vous avez tous la connaissance, Tchernobyl, Fukushima, mais pas seulement, mais également les OGM, en France surtout, également l'amiante, le sang contaminé, la vache folle et tout ce que vous voulez, et toutes ces affaires, qu'est-ce qu'elles ont fait ces affaires? Ces affaires ont mis en question la confiance, le climat de confiance, la confiance qu'on fait aux scientifiques. C'est-à-dire cette confiance aux scientifiques et à l'influence qu'il exercera sur la société ne va plus de soi. La confiance est un problème en soi. Et donc, avant de parler de ça, les questions éthiques sont principalement dans cette catégorie-là. Ce sont des questions qu'on traite au cas par cas. Des questions, par exemple, de nanobioéthique ou de l'éthique des nanotechnologies de l'information. Donc, traite au cas par cas comment? On en parle dans des comités d'éthique. Alors, exemple, les questions liées à la frontière entre nature et artifice, corps humain et machine, etc. Donc, des questions autour des nouvelles technologies en biologie et en médecine, nanomédecine, nanobiotechnologie. On en parle... En France, vous connaissez le CCNE peut-être, Comité National Consultatif d'Éthique, puis il y a d'autres comités d'éthique, à l'INSERM par exemple, Question liée aux technologies de l'information, où est-ce qu'on en parle en France ? À la question liée à la vie privée, au droit de savoir, à la CNIL, la CNIL, Commission nationale informatique et liberté. Et puis il y a également, d'ailleurs ça a été dit au début, il y a un comité d'éthique nouveau dont je fais partie, de l'Alliance Alisten, qui est l'alliance de tous les organismes français qui travaillent en informatique, qui a créé un comité d'éthique pour la recherche, parce que la CNIL c'est pour les applications. Et il y a un nouveau comité d'éthique, d'ailleurs, pour la recherche. Et puis, des questions de double usage. Par exemple, il y a 2 semaines, j'étais à Genève dans un grand colloque international sur la recherche duale organisée par les Nations Unies. Recherche duale, qu'est-ce que c'est ? C'est la recherche qui peut être, enfin, trivialement, bonne et mauvaise, un peu plus, qui peut avoir des répercussions civiles, mais également militaires. Par exemple, pour augmenter notre connaissance, mais également, ça met en cause la sécurité, etc. Donc la recherche duale est un grand domaine de débat aujourd'hui, surtout en médecine. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la biologie et à la médecine, après l'affaire d'une souche de grippe artificielle produite l'année dernière, vous avez entendu parler peut-être ça ? Voilà. Donc ça, c'est une grande question qui est très débattue. D'autres types de questions éthiques, les questions liées aux fictions et à l'imagination. Nous avons un peu vite toujours la tendance de dire que ce n'est pas la science, c'est de la fiction et donc je n'ai rien à faire avec ça. Mais non, ça influence la perception de la société, bien sûr. Tout ce qui est nano-art et des romans de nano-fiction qui n'ont rien à voir avec la science d'aujourd'hui, ça influence ce troisième aspect, donc la définition sociale des nanos. Alors, les questions de responsabilité, nous en avons parlé tout à l'heure. Vous allez, je pense, tous être concernés pour vos futurs projets de recherche par le débat sur la responsabilité du chercheur. Et finalement, quatrième grande catégorie, les questions qu'on appelle un peu questions de gouvernance, si vous voulez, avec ce mot que je n'aime pas beaucoup, mais quand même, sont des questions liées à la décision en situation d'incertitude. C'est-à-dire, vous ne savez pas quel sera l'avenir. Mais vous, en tant que manager, en tant que quelqu'un qui doit prendre une décision, vous devez prendre cette décision ici et maintenant. Dans les situations d'incertitude, alors quel principe utilisez-vous pour vos décisions ? Comment allez-vous agir ? Si vous ne faites rien, il se peut qu'il sera trop tard après. Mais si vous faites quelque chose trop tôt, l'incertitude est peut-être trop grande. Et alors quel principe d'action ? Vous voyez la tension entre les deux. Quel principe d'action ? Il y en a un que vous connaissez, qui s'appelle principe de précaution, qui fait partie d'abord encore que, je vous signale, le principe de précaution contient beaucoup de mots très intéressants. Par exemple, il demande une action proportionnée aux risques imaginés, donc aux risques présumés. Proportionné, qu'est-ce que cela veut dire ? Donc il y a beaucoup, beaucoup de questions d'interprétation liées à cette quatrième catégorie de questions liées à l'éthique des sciences. Donc voici, si vous voulez, le panorama des différentes questions. Et finalement, je veux dire, les scientifiques n'ignorent absolument pas ces questions-là. Vous voyez, bon, de quoi s'agit-il là ? Des questions éthiques liées à l'électronique, n'est-ce pas ? Liées aux nouvelles technologies informatiques. Regardez Big Brother, n'est-ce pas ? Vous reconnaissez les questions, mais ce que je vous montre, ce sont des illustrations et les articles publiés dans Nature Nanotechnology. D'accord ? Pas dans un journal grand public, mais dans une revue, d'ailleurs la plus sérieuse revue du domaine, pour les scientifiques même. Les scientifiques parlent de ces questions-là. Et vous devriez, idéalement, aussi en discuter dans vos labos et avec vos futurs collègues. Ce débat existe au sein de la communauté scientifique et, comme vous devinez peut-être, il est assez insuffisant en France par rapport au débat qui existe, par exemple, aux Pays-Bas, en Angleterre, aux États-Unis. Donc ce débat, c'est un débat qui n'est pas inconnu des scientifiques, auquel participent les scientifiques. Alors, bon, des articles comme ça, je peux vous en montrer tout un paquet. Alors, peut-être 2 dernières remarques. Donc, on va aller vers la fin. Je vous ai promis un mot sur les images. Vous vous souvenez de cette histoire de nanoir, les belles images avec les nanolittératures à côté. Bon, alors regardez comment ça fonctionne. Voici une image publiée dans un article scientifique. Avec cette légende-là, peu importe, en tout cas vous ne comprenez pas grand-chose, sauf si vous êtes dans le domaine, n'est-ce pas ? Cette image a été tirée de son contexte d'un article scientifique et publiée par une revue grand public. Donc d'abord, je vous montre la façon dont ça a été publié. Là, c'est en noir et blanc. Ça n'a pas été publié en noir et blanc. Donc ça a été publié comme ça. Alors, quand c'est tiré de son contexte scientifique et publié dans une revue grand public, à quoi pense le grand public quand il voit ça ? Champignons atomiques, n'est-ce pas ? Et avec toute la gamme d'associations que ça crée. Donc, on ne pense pas vraiment à cette magnifique légende qu'on ne comprend pas de toute façon. On pense aux associations suscitées par le visuel lui-même, par l'image. Vous voyez, quelle que soit la réalité représentée derrière, la réaction qu'on a spontanément, c'est parce que ça ressemble aux champignons nucléaires, aux champignons atomiques. Alors, voici une autre façon de publier exactement la même image. Je souligne, c'est exactement la même chose, n'est-ce pas, scientifiquement. Ce sont les mêmes données. À quoi est-ce que ça ressemble ? Des choux-fleurs, des brocolis, voilà. Vous voyez, ce sont les mêmes données. D'ailleurs, le microscope qui a été utilisé pour voir ça, c'est de la vision, entre guillemets. Vous êtes, je pense que vous en êtes conscient, n'est-ce pas ? On ne peut pas voir à l'échelle du nanomètre parce que c'est inférieur à la longueur d'onde de la lumière visible. Donc, ce sont des données électroniques interprétées après les faits comme une image visuelle. Mais c'est pas optique, ça. Ce n'est pas un microscope optique. Il ne voit rien avec des objectifs. Il interprète les données électroniques. Et donc, cette vision est une reconstruction visuelle. Donc là, il n'y a rien de vraiment optique dans cette image. Cette image, c'est la mise en image. C'est de la mise en image par l'homme, par le chercheur, qui, pour communiquer le message qu'il souhaite communiquer, a choisi ça, ou a choisi la forme précédente. Donc, vous voyez que les couleurs sont ajoutées, mais avec les couleurs viennent aussi toutes ces associations. Les couleurs ne sont pas dans la nature, les couleurs c'est nous qui les choisissons pour ces images-là, et nous choisissons également toutes les associations que cela provoque quand quelqu'un voit cette image. Et ça, c'est, si vous voulez, le vecteur fondamental de la perception des nouvelles technologies. C'est l'image. Les nouvelles technologies sont avant tout perçues par les belles images, ou pas si belles images, que le scientifique montre au public au sens large. Et quand vous serez en train de rédiger vos thèses, vos mémoires, je ne sais pas à quel niveau vous êtes, pensez toujours aux images que vous mettez dedans, aux couleurs que vous choisissez, parce que souvent, c'est vous qui choisissez les couleurs, et puis aux associations que ça crée. Et c'est une tâche très intéressante. Comment est-ce que je peux modifier l'avis du jury de thèse en choisissant des couleurs ? Pourquoi pas ? Alors, finalement, la dernière chose, si j'ai encore 3 minutes, d'accord, bon, très vite, bon, je ne vais pas vous parler longuement de cette histoire-là, mais c'est un document que nous avons rédigé avec mes collègues, que vous pouvez télécharger d'ailleurs sur ce site, Observatory Nano, et ce document parle des différentes questions éthiques, si vous êtes intéressé. Il parle de beaucoup de choses, bon, toutes sortes de questions éthiques, avec des catalogues de ces questions, et finalement, il y a un cinquième chapitre dans un tout dernier chapitre dans ce texte qui, j'espère, vous surprendra un peu. Parce que nous essayons de dire avec mes collègues, c'est une des thèses d'ailleurs que je soutiens depuis longtemps, que notre perception des nanotechnologies, nos façons de penser, pas seulement de nanotechnologies, mais de nouvelles technologies en général, est fondamentalement liée à des récits, à des grands récits qui font partie de notre culture. D'ailleurs, si vous allez au Japon ou si vous allez au Brésil, je ne sais pas, ce ne sont probablement pas les mêmes. Et ces grands récits que les gens spontanément ont en tête. C'est Prométhée, c'est Frankenstein, la boîte de Pandore, etc. Et donc, ces récits, dans ce texte d'ailleurs, dans ce toolkit que vous pouvez télécharger, on explique comment ces récits sont liés à des sujets dont on vient de parler, technologie politique, technologie d'ailleurs et hubris, on n'en a pas parlé, et puis avec les belles images, etc. Et je vais, pour terminer, bon, ça on va, malheureusement on ne va pas avoir le temps pour Pandore, mais on va avoir le temps pour cela. Alors, une histoire que je vais vous raconter qui se passe au 14e siècle, un peu avant les nanotechnologies, n'est-ce pas? Alors, il y a beaucoup de gens déjà qui ont entendu peut-être cette histoire? Hein? Non? Bon, alors, je vous raconte quand même cette histoire. Donc, c'est une histoire qu'on a trouvée dans les manuscrits qui ont été déchiffrés aux années 60 à peu près, donc du 20e siècle. Ces manuscrits appartiennent aux populations juives de la région du Rhin. Bon, auparavant, on n'a pas beaucoup lu ces manuscrits-là. Et pour ces gens, donc, un peu par définition, on peut discuter des raisons, mais on peut se demander pourquoi, mais un peu par définition, pour ces gens-là, le prophète Jérémie, que voici, était l'homme le plus sage et le plus intelligent de tous. Alors, Jérémie, d'ailleurs, c'est par Michel-Ange à la chapelle Sistine, vous voyez, hein, il a des cardinaux en ce moment autour. Et puis, enfin, c'est fini, ouais. Et donc, le prophète Jérémie est l'homme le plus sage et le plus intelligent. Et, bizarrement, il a besoin de faire quelque chose pour le prouver. Il ne peut pas vivre tranquille comme ça. Il a besoin de faire quelque chose pour le prouver, pour le démontrer. Déjà, vous voyez, toutes ces légendes demandent qu'on interprète hein, ces petites questions. Pourquoi est-ce qu'il a besoin vraiment de le démontrer? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se satisfaire juste de savoir qu'il est l'homme le plus sage et le plus intelligent? Et donc, il fait quelque chose que les autres hommes ne peuvent pas faire. Il fait un homme artificiel. Et les hommes artificiels s'appellent, dans la tradition juive, des golems. Donc ça, ce n'est pas le golem de Prague. Quelqu'un a entendu parler du golem de Prague? Voilà, donc ça, ce n'est pas le golem de Prague dont peut-être vous connaissez quelque chose, c'est un autre golem. Et ce golem de Jérémie, tellement Jérémie était l'homme le plus sage et le plus intelligent, c'était un golem parfait. Il se lève, il ressemble à un homme, il peut parler. Vraiment, vous ne voyez pas la différence. Et aussitôt, il se met à parler avec Jérémie et lui dit, « Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de faire ?» Et Jérémie lui répond, « Bon, je t'ai fait, toi. » C'est tout. Et le golem, parce que ce n'est pas un nom propre, il n'a pas de nom propre, d'ailleurs, pourquoi? Le golem lui répond, à partir de maintenant, quand un homme rencontre un autre homme dans la rue, il ne saura plus si c'est un homme fait par un autre homme ou un homme né de père et de mère. Vous voyez ce qui se passe? C'est une question éthique de brouillage des catégories qu'on utilise pour le jugement moral. D'accord, ce n'est pas du tout une question de science, mais c'est le brouillage des catégories morales. Et Jérémie, l'homme le plus sage et le plus intelligent, n'y avait pas pensé avant. Alors, comment est-ce possible qu'il n'y avait pas pensé? Pourquoi il n'y avait pas pensé? Ça, c'est, la légende n'en dit rien, c'est une question d'interprétation. D'ailleurs, on va en parler peut-être tout à l'heure. Pourquoi il n'y avait pas pensé? Alors, Jérémie demande au golem ce qu'il doit faire. Et le golem lui répond « Défais-moi ». Il ne dit pas « Tue-moi », il dit « Défais-moi » dans la légende. Ça, c'est intéressant, d'accord? Pourquoi est-ce qu'il dit « Défais-moi » ? Quelle est la différence entre défaire et tuer ? Est-ce qu'il était vraiment vivant ? Vous voyez, tuer, on peut tuer un être vivant, mais on peut défaire une machine. Mais après, ce golem était parfait, il ressemblait parfaitement à un homme, mais il n'était quand même pas tout à fait vivant parce qu'on l'a défait. Et donc, Jérémie le défait. Vous voyez qu'il y a la question de ce statut de ce golem, vivant, pas vivant. Jérémie le défait, fin de légende. Alors, vous allez me dire, mais Jérémie, bon, quand même, n'exagérons pas. il a eu ce privilège incroyable de réversibilité dans son action technique dans le monde, envers le monde. Alors, il a introduit quelque chose dans le monde, il a changé l'état du monde, et puis hop, il a pu revenir en arrière et restituer l'état précédent du monde. Et nous, avec nos téléphones portables, ordinateurs et nanomatériaux partout, évidemment, nous n'avons pas du tout ce privilège de réversibilité. Et je vous répondrai, oui, mais c'est tout le problème. Et donc, on est obligé de faire mieux que Jérémy, n'est-ce pas? Parce qu'il ne s'était pas posé la question, mais puis il s'en est sorti en revenant à l'état précédent. Mais donc, nous, nous n'avons pas ça. Et nous sommes donc obligés de faire mieux que Jérémy, qui est l'homme le plus sage et le plus intelligent de tous. Et comment faire mieux que l'homme le plus sage et le plus intelligent? Je vous remercie.
Merci, monsieur. Alors, les mains se lèvent. On a 10 minutes.
Merci tout d'abord pour la présentation. On parle surtout du manque de confiance envers les scientifiques, mais je pense que c'est aussi envers le gouvernement et les industries, enfin, ce qu'il y a autour des scientifiques.
Oui. Alors, quand vous regardez ce qui s'était passé pendant le débat national, vous allez très vite... Allez, hop. Donc, voilà, ça. Vous allez très vite vous apercevoir qu'en fait, ces gens n'étaient pas là parce qu'ils en savaient beaucoup aux nanosciences et aux nanotechnologies à propos des nanos. Ces gens étaient là parce qu'ils avaient des réclamations politiques, parce qu'ils disaient que le gouvernement a déjà, de toute façon, pris toutes les décisions sont déjà faites, donc ce débat ne sert à rien. Ces gens, bon, je ne vais pas répéter leur slogan qu'on pouvait entendre pendant les débats, mais ces gens-là avaient d'abord des demandes politiques, des réclamations politiques, et pas tellement liées aux sciences. Donc ce que vous dites, c'est tout à fait juste, dans la mesure où on le voit vraiment. D'ailleurs, c'est un débat politique. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, et c'est différent des années 50, 30 et tout ce que vous voulez avant, c'est qu'aujourd'hui, la science, la recherche scientifique n'est plus quelque chose de consensuel sur le plan politique. D'accord ? Avant, vous aviez la notion de progrès qui était aussi bonne pour la droite que pour la gauche. Le dernier président français qui a osé utiliser le mot progrès dans ses discours, c'était Giscard d'Estaing. Vraiment, le tout dernier discours de Giscard d'Estaing après sa défaite à Mitterrand, c'est la dernière occasion où on voit le progrès comme un but sociétal, un but pour la société, et après ça disparaît. Aujourd'hui, la science fait pleinement partie des choses politiques dont on débat, politique au sens, si vous voulez... pas au sens la gauche est pour ou la gauche est contre ou la droite est pour ou la droite est contre, mais des choses dont on débat au sein de la police, au sein de la cité. D'accord ? Des choses sur lesquelles il n'y a pas de consensus. Mais il y a un débat. Et donc, évidemment, s'il y a un débat, il y a des gens qui défendent telle position, telle autre position. Et ça, c'est la nouveauté. C'est-à-dire le fait même que nos activités... de nous, dans les labos, là, quand nous faisons de la science, que c'est un sujet de controverse politique.
Le problème, c'est que les débats sciences et société ne sont pas toujours, comment dirais-je, répercutés dans le grand public. On parle de consensus citoyen, la façon dont est constitué un consensus citoyen. On prend un panel souillé, etc. Vous pouvez expliquer un peu comment on fait
Le problème, c'est que, pour moi, le problème, c'est que ce débat est marqué beaucoup trop, en tout cas, selon moi, par la réaction spontanée des gens. Mm. C'est-à-dire, on vous demande ce que vous en pensez et vous devez répondre sur place une seconde plus tard. Mm. ce n'est pas du tout l'histoire de demander aux citoyens ce qu'ils en pensent, qui est en soi problématique, c'est très bien. Par contre, quand vous demandez à quelqu'un qui évidemment pas spécialiste et ne connaît rien du tout, c'est normal, mais quand vous lui demandez de répondre sur place, ça c'est le problème. Et la seule façon vraiment pour moi d'avancer dans ce débat, avancer vers quelque chose d'intéressant et, une vraie discussion, et d'ailleurs on va essayer ça avec le forum de la biologie de synthèse qui va démarrer le 20 avril, encore une fois sur la demande du gouvernement, c'est d'éviter ces réactions spontanées. Alors, éviter comment? Bon, dans un débat, on essaye de prendre le temps, etc. Mais éviter sur le plan global, éviter pour la société entière, comment peut-on le faire? Et pour moi, la question, c'est... Enfin, la réponse, si vous voulez, c'est l'éducation. Alors, regardez, éducation, pas au sens « il faut que tout le monde apprenne la mécanique quantique », mais l'éducation dans le sens suivant. Vous avez votre téléphone portable. Bon, j'ai quelque part le mien, si vous voulez. Regardez. Regardez ça. C'est un objet magique. C'est une boîte noire. Le citoyen, il sait quels sont les inputs et les outputs, les entrées et les sorties de cette boîte. Ce qui se passe à l'intérieur, il l'ignore complètement. C'est une boîte noire. Pourtant, tout un chacun a son téléphone portable, n'est-ce pas ? On est entouré aujourd'hui des choses qui sont pour nous des boîtes noires. Et la tâche de l'éducation, c'est de démystifier. Et ce n'est pas d'apprendre à tout le monde la mécanique quantique, mais c'est de démystifier les choses qui entourent tout, chaque citoyen dans sa vie. Et ça, c'est un problème, disons, auquel on s'attaque de façon très, très insatisfaisante. J'ai commencé, vous vous souvenez, par vous dire que le ministère de l'Éducation nationale n'était même pas présent parmi les commanditaires du débat sur les nanotechnologies. Et il y a très peu de lycées, par exemple, très peu de collèges, où aujourd'hui on parle des sciences et des techniques d'aujourd'hui, et pas du 19e siècle.
Mais ça, c'est pas grave si on parle de... Je fais de l'histoire des sciences, alors...
L'histoire des sciences, c'est bien. Par contre, la démystification des objets qui nous entourent aujourd'hui, qui ne sont pas les mêmes qu'au 19e siècle, cette démystification, c'est quelque chose que l'éducation est obligée, vraiment doit faire, ne peut ne pas faire, et elle ne fait pas.
Donc merci pour votre présentation. Tout d'abord, moi quand je vois toutes les questions que peuvent soulever au point de vue éthique et scientifique les nanotechnologies, je ne peux m'empêcher de faire le lien avec une autre technologie nouvelle à l'heure actuelle qui est celle des gaz de schiste. Et j'ai l'impression que les gaz de schiste, que ce soit au niveau public ou au niveau politique, il y a des débats qui sont beaucoup plus intéressants, argumentés et plus clairs que ce qui est fait sur les nanotechnologies, où on a l'impression que c'est beaucoup plus obscur, que les gens sont moins au courant et que c'est quelque chose qui est moins relié par les médias. Est-ce que vous pouvez expliquer ça, cette zone d'ombre qui plane sur les nanotechnologies par rapport au gaz de schiste?
Oui, moi je dirais que c'est simple. Gaz de schiste, c'est assez pointu. Nanotechnologie, ça comprend toutes sortes de domaines qui sont très différents d'ailleurs, de l'électronique jusqu'à la médecine, jusqu'à la biologie, jusqu'aux matériaux chimiques. Vous ne pouvez pas avoir un débat pointu sur un panorama aussi large, des questions qui sont totalement différentes. Pour le gaz de schiste, vous avez des questions liées aux effets sur l'environnement, donc bien pointues, très claires, et on a un débat là-dessus. Quand vous dites débat sur les nanotechnologies, ce débat, forcément, est plus large, est plus vaste, et donc plus vague aussi. Par contre, quand au sein des nanotechnologies, vous prenez un domaine particulier, avec un petit clin d'œil à mon collègue qui va parler de la cosmétique, il y a des débats tout à fait pointus, par exemple, sur la toxicité du dioxyde de titane, de l'oxyde de zinc, de tout ce que vous voulez. Ça, c'est un débat où on peut avoir des études scientifiques, et puis l'information du public, et puis le public peut créer son avis, se former un avis, donc sur la question, non pas des nanotechnologies, mais de l'utilisation de telles formes de dioxyde de titane, par exemple dans les crèmes solaires. Donc voilà, quand c'est un débat assez pointu, et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs avec la biologie de synthèse, qui est évidemment qui est encore un domaine, mais déjà un peu plus étroit que toutes les nanobiotechnologies. La biologie de synthèse, finalement, mène au même débat, même si c'est un petit sous-ensemble de ce que sont les nanotechnologies, les nanobiotechnologies.
J'ai une question un petit peu plus large. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire de la recherche sur absolument tous les sujets, même les plus controversés ? Et sinon, est-ce qu'il faut mettre des bornes à la science ?
Je pense qu'on peut, mais je ne pense pas qu'on doit. J'ai mentionné tout à l'heure la recherche duale. Vous savez, c'est un débat. Bon, deux mots sur le débat à propos du H5N1 qui peut être transporté par la voie aérienne. Donc, je vous rappelle, deux équipes, une équipe hollandaise et une équipe américaine, ont créé il y a un an et demi des souches de virus donc, potentiellement pandémiques. Pourquoi potentiellement pandémiques de H5N1, de la grippe? Pourquoi potentiellement pandémiques? Parce que ça se transmettait entre les furets par la voie aérienne. Avant, la grippe, cette grippe-là, H5N1, ne pouvait pas être transmise par cette voie-là. Et les furets, c'est un très bon modèle, ou en tout cas un bon modèle pour les hommes. Alors, la publication, et ils ont soumis pour la publication à Science et à Nature, un groupe à Science et un autre à Nature. La publication a été arrêtée, il y a eu un moratoire décidé aux États-Unis. D'ailleurs, même si seulement un des deux groupes était américain, mais c'est le National Institutes of Health aux États-Unis qui a décidé de mettre un moratoire qui a duré un an. Il a été levé en janvier. La publication a eu lieu. Pas exactement le même article qu'il y a un an, mais quand même un contenu assez important. Et il y a un énorme débat aujourd'hui entre les différentes personnes travaillant en virologie. Donc, vous allez à l'Institut Pasteur, vous avez des gens qui travaillent sur la grippe qui vous disent « c'est très important parce que ça nous a permis de connaître ces gènes, donc dans le code génétique, responsables de la transmission par la voie aérienne ». Et donc, on sait que ces gènes-là, voilà, il faut les chercher pour comprendre si ce virus est potentiellement pandémique ou pas. Donc, s'il y a une nouvelle souche qui émerge, on va comparer. Et puis, il y a des gens qui travaillent, par exemple, sur d'autres virus, des rétrovirus comme le sida ou, je ne sais pas, ou autre chose. Et il y a des gens qui disent, non, mais écoutez, mais à quoi sert cette connaissance? Pourquoi avez-vous cherché à avoir cette connaissance? Parce que, de toute façon, c'est dans le furet. Peut-être que votre virus s'est adapté au furet et dans l'homme, ce ne sont pas les mêmes gènes. Comment allez-vous prouver ça? Parce qu'il n'y a pas de preuve. On ne peut pas faire une manip sur les hommes. Il y a au sein de la communauté ce débat sur la légitimité ou pas, ou en fait, en tout cas, pas la légitimité au sens légal, mais le bien fondé des manips qui avaient été faites sur le virus de la grippe. Et ma réponse à votre question sera la même, c'est-à-dire il n'y a pas, dans l'absolu, une interdiction qui s'appliquerait à toutes sortes de domaines, de la biologie jusqu'à la physique. Ce sont des décisions qu'on prend. Oui, il y a des limites, mais d'où viennent ces limites? Ces limites proviennent en réalité des contraintes que le chercheur décide pour soi-même. Et oui, le chercheur doit y réfléchir avant de commencer son travail. Il est assez illusoire de penser que les grandes législations internationales, la Convention contre les armes biologiques ou des choses comme ça, des codes de conduite, il est assez illusoire de penser qu'il puisse arrêter la recherche. Parce que, regardez, voici, on a créé une souche de grippe malgré toutes les conventions et toutes les lois. Donc, vraiment, c'est une question que chacun doit se poser à soi-même. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de voir, par exemple, les thésards qui viennent me dire ce que je fais. En fait, c'est pour la nanomédecine. Par exemple, je développe un algorithme. Je suis informaticien. Je crée un programme, un algorithme pour suivre la propagation dans le sang des liposomes, donc des médicaments. Donc, c'est de l'hydrodynamique, finalement. Et puis, exactement, je me rends compte, dit donc le jeune homme que j'ai vu une fois, je me rends compte maintenant seulement qu'en fait, le même algorithme peut être utilisé pour la propagation des missiles dans l'eau ou dans l'air. C'est de l'hydrodynamique. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, non, c'est toi qui vas décider de ce que tu fais. Tout ce que je peux faire, moi, c'est d'élargir un peu le contexte, de vous raconter des cas semblables, des différentes situations, comme avec la grippe ou comme avec d'autres choses. Mais il n'y a pas une décision universelle pour tout le monde. Chacun doit y réfléchir soi-même.
Merci.
Une réponse courte, Monsieur Greenbaum, c'est la dernière.
Bonjour. J'ai une question un petit peu plus ouverte. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait réussir à informer plus efficacement la population et de manière pas trop biaisée, sans tomber dans l'associativité limite sectaire, pour informer les gens sur ce genre de questions, justement, mais de manière pas trop complexe? Je pense au site que vous avez montré tout à l'heure, qui est imbuvable, parfaitement impossible à consulter. Et sans, d'un autre côté, faire de la promotion pure et dure de ce qu'on veut défendre.
Oui, voilà, je voulais vous interrompre sur le mot informé. Oui, on peut. On peut raconter ce qu'on fait, à condition de ne pas présenter les données, mais à condition de transformer ces données en des récits qui ont des messages, qui ont un sens. Ce qui n'est pas du tout le travail habituel du scientifique. D'accord ? Quand il publie dans une revue scientifique, ce sont des données, des résultats. Mais quel sens, quel message, ça c'est à voir, et c'est très complexe. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est juste de vouloir informer, juste vouloir faire de la vulgarisation. Il faut très consciemment être à l'écoute, sachant qu'être à l'écoute, ça aide, parce que quand vous prenez le téléphone portable, quand ça a été conçu aux années 90, désolé, ce n'est pas très court, mais je vais prendre 30 secondes encore. Quand ça a été conçu aux années 90, vous allez acheter votre premier téléphone portable en 2000, peut-être, quelque chose comme ça. C'était une boîte avec une antenne qui permettait de communiquer. Mais maintenant, quand vous achetez votre téléphone portable, il y a aussi le niveau de rayonnement de cette antenne. Et au début, les ingénieurs n'étaient pas du tout intéressés par cette question-là. Oui, évidemment, ça a rayonné, mais bon. Et c'est grâce aux pressions sociales, c'est à cause des pressions sociales que la technologie elle-même a changé. C'est-à-dire ça, ce téléphone portable, qui est déjà assez bien, en fait, n'est pas du tout le même qu'en 2000, au niveau, par exemple, de l'exposition au rayonnement. Et cette question a été posée aux ingénieurs par la société. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas juste informer. Il faut aussi écouter, parce que la société, elle façonne la technologie comme nous, ingénieurs, façonnons la société, dans les deux sens.
Oui.
Ça va ? On a 10 minutes de pause. À tout à l'heure. Merci, monsieur.
Merci.